France Inter.
Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus dans Grand Main vous fasse. Comment aider les enfants à mieux comprendre et à mieux exprimer les émotions de vos enfants et de vos petits-enfants? C'est notre thème ce matin, joie, peur, colère, frustration, fierté, anxiété. Pourquoi les enfants vivent-ils ces émotions de façon aussi intense? Nous verrons que leurs émotions sont au cœur de leurs apprentissages, comment leurs émotions et leurs fonctions cognitives interagissent, des émotions qui sont également la clé de leur éducation. Et vous, racontez-nous comment votre progéniture vit ses émotions au quotidien, qu'il s'agisse des colères du petit dernier, de la frustration d'être privé de portable de votre aîné ou de la peur de rater un devoir de votre cadet. Toutes vos questions, vos réflexions au standard et sur WhatsApp au 01 45 24 7000, sur l'appli France Inter et sur la page Facebook de Grand Bien vous fasse. Elle vient de vivre des émotions très fortes. Elle a failli arriver en retard à cause d'un vélo crevé. Ça va, Gwenaëlle Boulet ?
Ça va. Bon. Quelle émotion.
Alors, quel est le menu de votre chronique ? Ma vie de parent.
Écoutez, moi je vais peut-être vous parler de mon envie de rembobiner le film et de faire un bac plus 5 psychologie de l'enfant avant d'en faire en fait.
A tout à l'heure, bienvenue dans Grand Main vous fasse, la vie quotidienne mode d'emploi.
France Inter, Ali Rébéi, Grand Bien vous fasse.
Élisée, quelle émotion tu ressens ?
Fâchée,
c'est la colère ? Grand comme ça ? Ils vivent beaucoup d'émotions, on peut imaginer parfois que ça va dans tous les sens. Donc l'idée de pouvoir un petit peu mettre des mots, clarifier, compartimenter, c'est l'idée que ça les aide un petit peu.
Tu as peur ? Beaucoup, un petit peu ?
Beaucoup.
Tout le bocal comme ça ? Tu es content aussi ? Beaucoup, un petit peu ? Beaucoup content aussi, d'accord.
Souvent, ils peuvent, ça leur pose, eux, pas de problème d'être en même temps content, en même temps en colère, en même temps triste, en même temps avoir peur. Alors, tu es content ?
Extrait de la Maison des maternelles sur France 2 en novembre 2016. Bonjour Rebecca Shankland.
Bonjour.
Vous êtes professeure de psychologie du développement à l'Université Lyon 2, responsable de l'Observatoire du bien-être à l'école. Et vous avez participé au livre de Sophie Bordet-Pétillon, Les émotions et moi, mieux les comprendre pour mieux les vivre. Bonjour Edouard Gentaz.
Bonjour.
En duplex de la RTS à Genève, vous êtes professeur du développement, de la psychologie du développement à l'Université de Genève, directeur de recherche au CNRS, et vous publiez chez Nathan « Comment les émotions viennent aux enfants ». Bonjour Héloïse Junier.
Bonjour.
Vous êtes psychologue, docteur en psychologie, et vous publiez aux Arènes une BD « Les émotions de l'enfant, 7 jours pour mieux les comprendre » avec la dessinatrice Mademoiselle Caroline. Alors, Rebecca Shankland, avant d'aborder le vaste continent des émotions chez l'enfant, rappelez-nous tout simplement ce qu'est une émotion. C'est d'abord un phénomène biologique.
Oui, tout à fait. Alors, lorsqu'on évoque le terme émotion, tout le monde semble savoir de quoi on parle, mais finalement, c'est assez compliqué à expliquer, à définir. On considère que c'est une expérience psychophysiologique qui se manifeste par un ensemble de réactions physiologiques qui visent à nous aider à nous adapter aux situations. Et par exemple, si on a une émotion de peur, ça va se manifester par un certain nombre de réactions physiologiques qui visent à nous aider à fuir la situation. Mmh. Donc chaque émotion va entraîner un mouvement, un comportement automatique qui vise à s'adapter au mieux à ce qu'on rencontre.
Et quelle est la différence entre une émotion et un sentiment ?
Il y a une émotion, c'est précisément une réaction spontanée, immédiate, qui ne va pas durer, puisque les situations vont être modifiées rapidement. Alors qu'un sentiment, c'est quelque chose qui va perdurer dans le temps, comme le sentiment amoureux, par exemple.
Donc la principale fonction des émotions, Héloïse Junier, c'est de s'adapter. Par exemple, si un petit garçon est saisi d'effroi à la vue d'une grosse araignée velue, la fonction de l'émotion de peur, c'est de lui indiquer qu'il faut fuir.
Oui, le stress va monter et du coup il va pouvoir courir plus vite que s'il était absolument détendu à l'instant T. Donc c'est une vraie fonction, c'est utile.
Comment expliquer à un enfant à quoi sert la peur, la joie ou encore la colère ?
En fait, c'est intéressant, je trouve, quand un enfant est face à une situation qui lui procure des émotions différentes, d'essayer de lui faire comprendre ce qui se passe dans son corps à l'instant T. Son rythme cardiaque monte, son cœur bat plus vite, du coup, il a un peu plus chaud, il a besoin de courir, de bouger. Donc en fait, en fonction de la situation auquel il est confronté, on peut essayer de lui faire comprendre l'émotion et la nommer. Et au fur et à mesure, en fait, il va voir l'utilité de cette émotion par rapport au contexte donné.
Rebecca Shankland.
Oui, en fait, on distingue 5 compétences émotionnelles, donc la capacité à identifier ses émotions, à comprendre l'émotion, c'est-à-dire quel est le besoin qui est derrière, et est-ce qu'il est utile ou non d'agir dans cette situation. La capacité à réguler l'intensité, c'est-à-dire si l'émotion est trop forte, on va avoir une réaction disproportionnée, donc on peut diminuer l'intensité. La capacité à exprimer l'émotion pour pouvoir indiquer à son entourage qu'on a besoin d'aide, par exemple, ou bien qu'on est heureux. Et enfin, la capacité à utiliser ses émotions pour pouvoir prendre des décisions. Souvent, on a pensé qu'il fallait laisser les émotions de côté pour prendre des décisions, mais en réalité, ce sont des indicateurs importants pour pouvoir prendre des décisions plus adaptées.
Édouard Jantaz.
Oui. Eh bien, du coup, je peux que compléter ce qu'ont dit mes collègues. Donc, vraiment, les émotions, c'est quelque chose de vraiment, c'est un événement qui se situe très limité dans le temps. Et chaque fois, faut rajouter le côté dimension cognitive. C'est-à-dire que l'enfant donne, par exemple, le même contexte dans la même situation. Il y a une personne ou un enfant qui va dire, ça va générer chez lui une émotion extrêmement forte. Et puis, la même personne à côté va pas du tout évaluer de la même façon cette situation. Ce qui veut dire qu'il peut avoir le même événement. Par exemple, je peux voir un animal dans mon environnement. Il y a un enfant qui va avoir extrêmement peur et un enfant qui va être extrêmement attiré. Ce qui veut dire que chaque fois qu'il y a cet événement, cette stimulation, il y a à chaque fois une évaluation cognitive. Et on a besoin, du coup, d'identifier, de reconnaître si cet événement est dangereux pour moi ou pas dangereux. Et du coup, développer tout un tas de comportements adéquats. Si j'ai peur, je fuis. Si, par exemple, je suis attiré, du coup, je vais prodiguer des caresses.
Édouard Jantaz, quelles sont les émotions universelles de base, les émotions primaires que peuvent ressentir une petite fille de New Delhi ou de Tarascon sur Ariège, un petit garçon de Dakar ou de New York? C'est quoi ces émotions de base, universelles?
Alors il y a des grands débats dans la littérature sur l'origine de ces émotions, mais il y a un certain consensus qui dit qu'il y aurait environ 5-6 émotions, la joie, la surprise, la peur, la colère, le dégoût et la tristesse. C'est des fameuses émotions de base décrites par Ekman, qui se basent sur 2 grands types d'arguments.
Paul Ekman, grand psychologue américain.
Voilà, et donc lui, il propose de tester ses émotions à travers différentes cultures. C'était dans les années 70, et puis il s'est aperçu que la plupart des différentes cultures reconnaissaient de la même façon des visages qui exprimaient ces 6 émotions de base. Puis on a un deuxième argument qui est proposé par les chercheurs, c'est que les personnes aveugles de naissance, quand on leur demande, quand on observe comment elles expriment leurs émotions, elles expriment exactement de la même façon ces émotions de base que les voyants. Ce qui veut dire que c'est pas lié à un apprentissage, à une imitation visuelle, mais bien à une production qui serait pré-câblée et universelle de ces émotions
de
base.
Donc, ces émotions de base sont innées?
Probablement.
Et comment naissent les émotions morales? À partir de quel âge elles apparaissent, ces émotions morales?
Alors là, il faut attendre plusieurs mois, on dit environ à partir de la 2e année, parce que les émotions morales, forcément, elles font référence à des normes sociales, à des règles dans la société. Et pour que l'enfant ait conscience, il faut qu'il connaisse ces règles, il connaisse ce qui a été établi dans son environnement. Donc on dit, c'est environ à partir de 15, 17, 2 ans, là, il va avoir une certaine appréhension de le bien, le mal, de ce qui se fait, de ce qui se fait pas. Et donc, ça va pouvoir générer chez lui des émotions dites morales, de culpabilité, du coup, est-ce que c'est bien ce que j'ai fait, est-ce que c'est pas bien? Vous voyez, toutes ces choses-là. Et forcément, ces émotions morales dépendent de la culture et des règles sociales du milieu familial et milieu culturel.
Et ces émotions morales nécessitent donc que l'enfant puisse représenter l'état mental d'une autre personne, Rebecca Shankland.
Oui, c'est ça, tout à fait. Alors, ce qui est intéressant, d'une part, au niveau des émotions de base, qui sont des émotions universellement reconnaissables, c'est que la capacité à les identifier va nous aider à mieux interagir avec les personnes d'une manière plus adaptée. Donc, ce sont des compétences essentielles, en fait, pour pouvoir développer des relations constructives. Et lorsqu'on a un déficit de capacité à identifier les émotions, en fait, ça entraîne plus de comportements antisociaux, parce qu'en fait, est associé un déficit d'empathie. Donc, il y a effectivement à la fois cette capacité à prendre la perspective d'autrui qui va nous aider à développer les émotions morales, mais il y a aussi ces compétences émotionnelles qui nous aident à être plus empathiques.
Héloïse Junier, j'aimerais qu'on prenne un exemple de votre très bonne BD, hein, Les émotions de l'enfant. Il y a d'ailleurs Rebecca Shankland qui joue un personnage dans votre livre. Au moment du départ à l'école, c'est la panique entre Livio qui se roule par terre, car il ne veut pas aller à l'école, le petit dernier qui se met à pleurer dans les bras de son papa. Alors comment expliquer cette panique émotionnelle que énormément de parents ont connue?
En fait, le problème, il est double le matin. Déjà, le temps, il est réduit. Enfin, le temps qu'on a imparti, il est réduit. Donc, le parent a une certaine pression, il doit arriver à l'heure à l'école. Et l'autre souci, c'est que généralement, les jeunes enfants ont des vraies difficultés avec les transitions. On a vu, hein, aller au bain, c'est compliqué, sortir du bain, c'est compliqué, aller à l'école, c'est compliqué. Il y a plein de transitions qui les mettent en difficulté. Et en fait, à ce moment-là, au moment où nous, parents, on a une pression pour aller à l'école à l'heure, et on sait que sinon, à l'école, elle ferme le portail, et c'est game over après, c'est compliqué. Dans ces cas-là, ça induit beaucoup de stress chez le parent. Et du coup, notre stress monte, notre impulsivité monte, notre disponibilité évolue, et l'enfant étant très, voilà, naturellement impacté par nos émotions sur le moment de notre stress, il va être aussi plus impulsif et le niveau de stress va monter chez l'enfant, c'est un cercle vicieux et tout le monde pète les plombs.
Vos solutions, tiens, pour réguler ces émotions très fortes et éviter ce stress matinal?
Alors, les solutions toutes faites qui sont miraculeuses, bon, j'en ai pas trouvé.
Vous vous mettez en scène, hein, dans cette BD.
Mais oui, c'est vrai.
Hein, c'est vous, hein, c'est votre famille. Hein.
Alors, c'est vrai que c'est moi qui apparais dans la BD. D'ailleurs, je suis extrêmement bien dessinée parce que je suis extrêmement svelte et hyper belle. Donc, merci à l'illustratrice, à Caroline. Alors, déjà, les pistes que je propose dans cette BD, effectivement, c'est déjà de prendre plus de temps. En fait, l'enfant a un cerveau qui est plus lent, il est plus lent de manière générale. Il met plus de temps à traiter l'information, à se préparer, à mettre ses chaussures. Donc, déjà, prendre une plus grande marge le matin, genre peut-être 10 minutes de plus pour avoir un peu plus de jeu pour le parent, c'est un plus de confort. Et aussi, c'est ritualiser. Comme les transitions, on sait que c'est compliqué pour les tout-petits, on va essayer de ritualiser. Donc de
par
faire,
exemple
par exemple, ça va être on se lève le matin, on déjeune, on met ses habits, on se lave les dents, on met le manteau, on fait un câlin, on s'en va, par exemple. Et plus les routines sont connues du tout-petit, hein, qui a une très faible construction de la temporalité, plus il arrivera à les plus elles seront prévisibles, plus elles seront confortables, et du coup, plus l'enfant pourra les investir. Donc même pour le soir, c'est pareil, c'est une transition, donc on va la ritualiser au maximum pour la faciliter.
Rebecca Shankland, on a souvent l'impression que les enfants vivent des émotions plus intenses que les adultes. On a rarement vu un monsieur de 90 ans se rouler par terre parce qu'il n'a pas obtenu ce qu'il voulait. comment on explique cette intensité des émotions chez les enfants?
Alors en fait, c'est notamment dû à une plus grande difficulté à réguler l'intensité. Donc, ils vont à la fois être plus réceptifs à l'environnement, donc plus réactifs aussi à l'environnement, mais aussi, ils ont moins de compétences pour les réguler, puisque ça nécessite un développement cognitif, et notamment du cortex préfrontal plus développé. Donc, au fur et à mesure qu'ils grandissent, cette capacité va pouvoir être davantage mobilisée. Et donc, lorsque l'émotion commence à apparaître, ils vont tout de suite pouvoir identifier qu'elle est en train de monter et pouvoir réguler cette intensité aussi à travers des techniques qu'ils peuvent apprendre. Hein. Donc, pour certains enfants qui ont des difficultés en particulier, il y a des techniques de respiration, des techniques cognitives qu'on peut utiliser et qui vont aider à développer aussi cette compétence.
Édouard Jantaz, plus on grandit, plus on réussit à maîtriser ses émotions. Et je n'ose imaginer le petit garçon qu'a pu être le président Trump, par exemple.
Oui,
alors... a du mal à maîtriser ses émotions. Mais oui, normalement, justement. le chemin naturel, avec le temps, c'est d'apprendre à réguler ses émotions fortes, comme la colère.
Oui, peut-être que pour apporter un petit complément, c'est peut-être qu'on se dit, on n'a pas l'impression que chez les adultes, il y a des variations, qu'on a des problèmes d'intensité. C'est que nous, adultes, on a une capacité à les rendre invisibles à l'extérieur. Peut-être que, justement, si vous parlez de Trump, il a aussi des très fortes variations des problèmes de régulation d'intensité émotionnelle. Mais il va être aussi, il y a d'autres personnes qui vont aussi avoir la capacité à les masquer au moment. C'est-à-dire qu'on ne va pas voir qu'il fait une crise comme ferait un enfant dans un couloir de magasin, mais la personne adulte, ça va être tout intérieur, et puis elle va pouvoir différer sa colère ou aller faire par exemple du harcèlement sur les réseaux, des choses comme ça, et se défouler par ailleurs. Donc ce qui est remarquable chez l'enfant, c'est que lui, c'est difficile pour lui de réguler son intensité et il peut pas masquer comme le font les adultes. Et nous, adultes, on réussit mieux à réguler, mais parfois, c'est aussi intense que chez eux, on est autant en colère, mais par contre, on est capable de les masquer et donc, du coup, d'adopter des comportements qui vont être plus discrets, plus sournois et d'aller se défouler ailleurs.
Gonelle Boulet.
Oui, et puis en tant que parent, je trouve que ce qui est compliqué, c'est que au sein même d'une fratrie, on a des enfants très différents. Et moi, je trouve qu'assez jeune, il y a des enfants qui sont très expressifs, qui rendent leur... On parle beaucoup des colères, mais moi, j'ai pas eu d'enfants qui se roulaient par terre spécifiquement. En revanche, j'ai à faire face à des émotions qui sont plus difficilement lisibles, des sentiments de honte, des sentiments très intériorisés et qui sont, je trouve, plus difficiles quelque part. On met toujours la colère, l'enfant qui se roule par terre en avant, mais il y a aussi beaucoup d'autres types d'émotions que je trouve assez jeunes, beaucoup plus rentrées et pas forcément faciles à analyser en tant que parent. Surtout quand on n'est pas sur la même le même type de ressentiment. Par exemple, en tant que parent, on peut ne pas être très sujet à la honte, par exemple, et puis avoir un enfant qui l'est. Et ça, c'est compliqué à gérer.
On reviendra d'ailleurs tout à l'heure sur la question de la honte, notamment quand on a peur de s'exprimer en public, hein, en classe. On prendra cet exemple tout à l'heure. Édouard Jantaz.
Oui, du coup, c'est qu'il y a une grande variabilité inter-individuelle entre les enfants. En fait, il faut imaginer que cette capacité à identifier les émotions, à les comprendre, à les réguler, c'est comme d'autres compétences, d'autres capacités. Il y a des enfants, par exemple, qui peuvent marcher à 12 mois, d'autres qui marchent à 8 mois et d'autres qui vont marcher à 2 ans. Et on voit que il y a de la grande variabilité. Et les parents, chaque enfant est singulier. Il y a une prédisposition, il y a des composantes innées qui font que chaque enfant va se développer avec des capacités plus ou moins importantes. Et puis, le milieu culturel, les parents vont décider de travailler spécifiquement certaines compétences plus que d'autres.
Héloïse Junier.
Alors, je suis complètement d'accord avec ça. Et pour compléter effectivement ce que dit Édouard Jantaz, c'est vrai qu'à la base, l'enfant aussi naît avec un tempérament qui lui est propre. Il y a une variabilité du tempérament chez les enfants. Il y a des enfants qui ont un tempérament qu'on va appeler hautement réactif, avec une grande réactivité au stress. Alors là, bon courage pour les parents, parce qu'effectivement, c'est des enfants, hors des 6 mois, on voit des grands de distinction, qui par exemple vont sourire moins souvent, qui vont pleurer plus souvent, crier plus souvent, plus fortement également. Donc ça met évidemment les parents plus en difficulté. Et puis de l'autre côté du continuum, vous avez des enfants qu'on qualifie de faiblement réactifs, pardon. Et là, effectivement, ça va être des enfants qui ont des ressentis, enfin, des émotions qui seraient moins fortes et plus facilement, du coup, aussi, accompagnés par la famille. Et d'ailleurs, dans les recherches, on voit que les parents d'enfants hautement réactifs ont un sentiment de compétence parentale qui est un peu inférieur aux autres parents.
Rebecca Chancland.
Oui, et donc justement, les parents peuvent jouer un rôle très important par rapport à cette hyper-réactivité à l'environnement. Donc, plus l'enfant est hyper-réactif, plus il va être nécessaire pour qu'il puisse s'apaiser plus facilement, que l'environnement soit apaisant. Alors que quand on a un enfant qui est moins facilement réactif à l'environnement, à l'inverse, on peut être plus dans une stimulation pour pouvoir maintenir la communication. Donc là, ça va être vraiment le travail de l'environnement, de pouvoir s'adapter au mieux. Et chaque enfant dans une même famille va être totalement différent. Donc ça implique finalement une posture parentale qui va être adapté à chaque enfant.
Ça doit inquiéter un enfant qui n'exprime pas ses émotions. Est-ce qu'on doit être inquiet si il n'exprime pas la colère, la tristesse, la joie? Est-ce que ça peut être prédicteur d'un trouble psychologique?
Alors, oui, c'est-à-dire que, en fait, l'émotion...
On appelle ça l'alexithymie, peut-être ?
Alors, tout à fait. Ouais. Donc, l'alexithymie, c'est la difficulté à identifier, à nommer ses émotions, à les partager. Alors, effectivement, c'est compliqué à plusieurs titres. C'est-à-dire qu'une des fonctionnalités de l'émotion, c'est précisément d'alerter l'environnement. Et notamment, plus ils sont jeunes, plus ça va être utile pour pouvoir prévenir d'une difficulté, d'une situation de mal-être, etc. Donc, le fait de ne pas exprimer d'émotion, ça pose des difficultés dans la communication, les interactions et donc dans l'ajustement des parents aux besoins de l'enfant. Et ça peut effectivement signaler des difficultés en termes de développement. Donc, c'est un signal d'alerte qu'il est utile de repérer. Donc, à la fois, on peut se dire, ah ben, tant mieux, moi, il ne fait pas de crise, il ne se roule pas par terre. Mais en réalité, les émotions sont très utiles. C'est vraiment important de les prendre plutôt comme des messagers et qu'on peut apprendre à apprivoiser. Et donc ça, on le propose notamment aujourd'hui dès l'école maternelle et même on fait un travail dans les crèches et Edouard Jantaz également hein, sur le développement des compétences émotionnelles pour que dès le plus jeune âge, on puisse aller au contact de ces émotions, les exprimer et pouvoir en faire quelque chose d'utile et informer l'environnement de la manière dont on se sent.
Dans un instant, comment aider les enfants à mieux accueillir leurs émotions désagréables? Ce sera juste après avoir écouté Massive Attack, Unfinished Sympathy, un titre sorti en 1981. Massive Attack, interprété Unfinished Sympathy.
Les mignons gamins.
Grand bien vous fasse.
Calme-toi.
Lâche la couloir. Benoît, c'est un gentleman qui parle.
Arrête ça, Benoît.
Ali Rébéi.
Mais il est fou, j'avoue,
dit. Je ramasse ça. Moi, ce qui m'emmerde, c'est qu'il m'a bouffé mes accoudoirs, ce petit con-là.
Sur France Inter.
On a tous connu ce genre de scène. Et ce matin, comment aider les enfants à mieux comprendre et à mieux exprimer leurs émotions, c'est notre thème ce matin.
Oh, salut Snoopy, je sais que t'attends ton petit-déj, j'essaie de choisir quelle boîte te donner, mais aujourd'hui ça me paraît trop dur. En général, je suis plutôt optimiste, sauf que parfois je me sens un peu dépassé. C'est comme si tout à coup j'étais rongé par le doute. Je ne me sens plus à la hauteur. Ah, je ne sais même pas pourquoi je t'en parle, tu n'y peux rien et tu peux pas me répondre. Des fois, on a simplement besoin de quelqu'un qui nous écoute.
Extrait de Snoopy de Charles Schulz. Et ce matin, nous sommes avec donc Rebecca Chankland et Édouard Gentaz, professeur en psychologie du développement, et avec la psychologue, docteur en psychologie, Héloïse Junier. Alors, les enfants ne comprennent pas toujours leurs émotions désagréables, hein, comme la tristesse, la peur, le dégoût. La plupart des enfants s'en passeraient bien, je pense. Comment les aider à mieux comprendre ces émotions qui entraînent donc des réactions physiologiques pas très agréables? Héloïse Junier, je rappelle que vous publiez une très bonne BD, Les émotions de l'enfant, 7 jours pour mieux les comprendre.
Alors en fait, déjà, je pense que de manière générale, en tant que parent, il est important de ne pas les diaboliser, ces émotions. C'est que ça que, voilà, l'instant d'émotions désagréables. Effectivement, on va voir qu'en société, les émotions de l'enfant sont vues comme des caprices, de la comédie, de la provocation. Donc c'est bien pouvoir, en tant que parent, de contrebalancer ça et de montrer à notre enfant que ces émotions sont OK. Par contre, détruire l'environnement, dépasser trop les limites, non, mais les émotions en elles-mêmes sont OK.
Rebecca Chankland, vous participez au livre Les émotions et moi de Sophie Bordet-Pétillon.
Oui, tout à fait. Alors, on a eu l'habitude de parler d'émotions négatives.
Ah oui, d'ailleurs, est-ce qu'il vaut mieux parler d'émotions négatives ou d'émotions désagréables?
Alors justement, on parle d'émotions négatives au sens où elles vont avoir un impact négatif de manière plus forte en général sur les comportements et sur les conséquences. Mais pour pouvoir contrecarrer cette tendance qu'on aurait à vouloir éliminer ces émotions, à ne pas les montrer, etc., aujourd'hui on préfère parler d'émotions désagréables au sens où d'émotions difficiles, hein, puisque bien sûr c'est difficile à vivre, mais sans pour autant les diaboliser, dans le sens où toute émotion peut avoir une utilité, en particulier si on pense aux émotions de peur, aux émotions, à l'émotion de colère aussi, hein. Souvent c'est l'émotion qui est considérée comme la plus négative, puisqu'elle va entraîner des comportements qui peuvent être problématiques, mais en réalité cette émotion nous indique que quelque chose se passe dans l'environnement qui ne correspond pas à nos valeurs, à nos besoins, donc qui quelque part nous pousse à agir sur cette situation pour dire que ça ne convient pas. Donc il y a des manières de le dire, et c'est pour ça que la compétence exprimer ses émotions est une véritable compétence à développer. Donc on peut dire ses émotions, mais d'une manière adaptée, entendable, constructive, pour pouvoir modifier la situation. Mais lorsqu'on parle d'émotions difficiles, ça aide aussi les parents à ne pas les voir uniquement comme quelque chose de négatif, de destructeur, mais aussi comme quelque chose à entendre, à mieux comprendre en termes de besoins du côté de l'enfant. Et aussi pour l'enfant, c'est très important de comprendre que être triste, c'est pas quelque chose qu'on doit éliminer en soi. En fait, être triste, c'est être touché par quelque chose qui est important. Et donc, ça mérite un temps pour se poser, pour pouvoir identifier ce qui se passe, en parler à quelqu'un.
Et d'ailleurs, dans vos livres respectifs, l'idée, ce n'est pas d'éradiquer les émotions désagréables.
Hein. Oui, non. Pas du tout, effectivement. L'idée, en fait, c'est d'apprendre à l'enfant à les identifier, essayer en tant que parent de les accueillir. Bon, c'est difficile parfois si on est soi-même un peu stressé ou un peu en colère. Et puis surtout de maintenir, quoi qu'il en soit, le cadre dans l'instant T, en fait, dans la situation. Ouais.
Agréable ou désagréable, il est important que les enfants identifient les émotions qu'ils ressentent, des émotions qui peuvent être exprimées par une grande palette de mots, Rebecca Chankland. Ça, c'est très important. Hein.
Oui, alors effectivement, plus on va être capable de nommer des nuances différentes, plus ça nous aide aussi à mieux nous adapter aux situations, mieux comprendre ce qui est en train de se passer et pouvoir l'exprimer d'une manière plus adaptée à l'environnement.
Donc, alors, je prends un exemple de votre livre, hein, donc page 30, quand on est joyeux, on peut être content, heureux ou heureuse, euphorique, comblé, amusé, satisfait, rassuré, amoureuse, reconnaissante. Et si on est en colère, on peut être contrarié, mécontente, fâché, révolté, furieux, écœuré, frustré. Et ce nuancier de mots, il est formidable pour aider les enfants à reconnaître leurs émotions.
Alors j'allais dire pas seulement les enfants, parce qu'en réalité les adultes
on se disait ça en rentrée,
ont un déficit de vocabulaire. Et on le voit par exemple quand on anime des ateliers sur les compétences émotionnelles avec les adultes. Donc, par exemple, après un exercice de pleine conscience, on va demander comment vous vous sentez, qu'est-ce que vous ressentez dans votre corps, quelles sont les émotions. Et on a repéré qu'un certain nombre d'adultes disent, en fait, je me sens bien, mais c'est pas le même bien que tout à l'heure. Mmh. Donc, il n'y a pas d'autre mot, mais donc ça mérite d'être travaillé aussi.
Héloïse Junier.
C'est toujours intéressant, je trouve, de voir le décalage qu'il y a entre la science de l'émotion, qui étudie en laboratoire, et le terrain, la perception qu'on a, finalement, de cette émotion-là.
Nous accueillons Claire de Vierzon. Bienvenue.
Bonjour.
Ravi de vous accueillir. Vous êtes la mère de trois garçons. Enfants. Ouais, oui. Trois garçons. Oui. Quel âge ont-ils ?
Alors désormais, ils ont bientôt 14, 12 et bientôt 8.
D'accord. Et l'un de vos plaisirs, c'est d'essayer de déchiffrer leurs humeurs.
Alors, et leurs émotions. C'était surtout par rapport aux deux aînés qui n'ont que 20 mois d'écart. Mmh. Et donc, ils ont des caractères totalement différents. Et parfois, la colère exprimée, en fait, de la tristesse. Parfois, la frustration s'exprimait par des rires. Ça, c'était, donc, il fallait vraiment décoder. Et chacun avait sa personnalité. Le troisième petit garçon a aussi, lui, sa façon de s'exprimer. Donc, moi, j'avais mis en place deux choses. Il y avait d'abord le temps où on remontait la petite allée qui est à côté de chez moi, dans la voiture. Et les enfants pouvaient exprimer tous les gros mots qu'ils voulaient, jeter tout ce qu'ils... C'était dans la voiture, c'était fermé, on pouvait. Et en fait, très vite, je me suis rendu compte que ce qui leur faisait du bien, ce qui leur faisait plaisir, ce n'était pas de dire des gros mots, c'était de crier. Mm-hmm. Donc, il y avait des choses comme ça qui sortaient. Et puis aussi, on a appris à s'imiter les uns les autres. Et ça permet aussi de décoder. Alors, vas-y, imite papa. Ah oui, d'accord, papa, il fait comme ça. Et qu'est-ce que tu perçois quand il fait ça? Et voilà, on faisait ça.
C'est pas mal.
Mais je pense que par rapport à tout ce qu'est la petite enfance, vous avez décodé beaucoup de choses, mais là où je rebondis par rapport à tout ce que vous dites, je travaille en collège et lycée professionnel. Mmh. Mmh. Et moi, je vois bien que les adolescents, souvent, adoptent une posture. Mmh. Et ils ne laissent pas s'exprimer leurs émotions, comme si c'était mal de dire qu'on a peur. De montrer qu'on est vulnérable, de montrer qu'on est amoureux, de montrer et en fait finalement si on prend les choses dès qu'ils sont petits et même si mes enfants sont grands, je vais quand même aller chercher des informations pour aller travailler avec les petits, je vais aller chercher des ouvrages de vos intervenants et intervenantes, je pense que si on prenait les choses plus tôt et que on se sentait une liberté d'exprimer ses émotions et de pouvoir les assumer en pleine conscience et en pleine liberté, et ben je pense qu'il y aurait moins une espèce de forme de violence ordinaire à l'encontre des émotions.
Édouard Gentaz, je rappelle que vous publiez Comment les émotions viennent aux enfants. C'est très très juste ce que nous dit Claire.
Oui, tout à fait. Puis là, on voit que dans chaque famille, il y a des stratégies, des rituels familiaux qui sont proposés, qui correspondent bien aux besoins. Et là, on voit en fait que dans les registres possibles dans les familles, globalement, on a des jeux. Globalement, plus on va entraîner, plus on va expliciter tous les mots ressentis dans toutes les formes de jeu possible, parce qu'on sait que le jeu, c'est vraiment une activité essentielle tout au long de la vie. On peut même jouer à l'adolescence à des jeux de rôle à imiter sa famille. Vous voyez, il y a le sport, il y a la lecture, il y a les activités manuelles, le jardinage, le bricolage, et puis aussi pleine conscience. Mais ces registres-là, c'est toutes les activités qu'on peut accompagner tout au long du développement pour essayer d'entraîner chaque enfant à trouver le bon mot, toutes les nuances de mots, pour essayer de comprendre toutes ces émotions, les causes, les conséquences, comment les réguler, comment je fais, comment les partager.
Rebecca Chanclon.
Oui, et en complément, effectivement, ce que vous décriviez dans cet exemple où les enfants ont besoin d'extérioriser à un moment dans la journée des émotions qui ont pu être fortes. En complément, ce qui peut être pertinent aussi, c'est de pouvoir montrer d'autres façons, s'entraîner à trouver d'autres façons à exprimer des émotions ou à réguler des émotions, parce que l'enfant, s'il n'a pas d'exemple, il n'a pas forcément d'autres idées. Donc, ce qui peut être intéressant, c'est de montrer finalement d'autres chemins pour pouvoir aussi exprimer ou réguler une intensité émotionnelle.
Héloïse Junier.
Alors, c'est intéressant aussi de rappeler effectivement que le parent, les éducateurs, les professionnels de manière générale, sont vraiment des modèles sociaux pour l'enfant. Et en fait, on leur apprend par notre propre gestion des émotions, qui est plus ou moins bonne, à réguler eux-mêmes leurs émotions. Donc, on est des vrais modèles. Et aussi, rappeler, c'est important, parce que c'est vrai que je suis beaucoup sur le terrain aussi, auprès des familles, qu'il y a un décalage qui est fort entre la théorie et la pratique, entre la science et la vraie vie, et c'est vrai que je pense, j'aime bien rappeler aux familles qu'on ne sera jamais le parent idéal qu'on veut être, en fait. Et ça, c'est OK. Mais du moment qu'on tend vers ces principes-là que nous apprend la recherche, c'est déjà une très bonne chose, je pense.
Claire ?
Oui, je voulais juste rajouter, maintenant qu'ils ont grandi, parce que bon, les gros mots, ça y est, maintenant c'est passé. En fait, nous, on est une famille de dessinateurs. Mon époux est infographiste et donc le dessin, c'est vraiment une culture de famille et on aime le faire ensemble. Et ça, il se passe vraiment beaucoup de choses à travers ce biais-là. Et de le faire ensemble aussi, on perçoit les humeurs, on perçoit les ressentis et toujours, ça ouvre sur du dialogue.
Gwenaëlle Boulay.
Oui, ce qui est difficile, je trouve, en tant que parent aussi, c'est de ne pas vouloir coller nos propres recettes aux enfants. C'est-à-dire que quand bien même on aurait dans la famille, je vais vite, un parent dont on dit colérique, c'est pas bien, mais on va dire apte au colère, et puis un plus jeune, celui qui va avoir trouvé sa propre recette pour réguler sa colère, c'est pas forcément la bonne recette pour l'enfant. Pareil pour le stress, pareil pour l'angoisse. Et je trouve que ça, c'est ce qui est difficile aussi, c'est que même une fois qu'on a analysé en gros des terrains, des expressions qui s'expriment plus ou moins chez un enfant, de là à trouver la bonne petite solution, c'est pas toujours évident, je crois. Et c'est à l'enfant de s'approprier ses propres solutions.
Tout à fait, d'où l'intérêt de pouvoir développer une palette de stratégies possibles. Donc le dessin, c'est un très bel exemple. Et donc dans chaque famille, il peut y avoir plein d'exemples comme ça qui vont permettre de développer des stratégies variées.
Édouard Gentaz.
Oui, du coup, pour compléter, c'est vraiment tous ces exercices de métacognition.
C'est quoi la métacognition, Édouard Gentaz? Je vous arrête là.
Très rapidement, c'est essayer de penser à comment on fonctionne et du coup à établir quelles sont les stratégies possibles et quelles sont les stratégies qui marchent bien pour moi, mais pas forcément pour les autres. Et plus je vais les expliciter, plus je vais augmenter la palette, mieux ça sera pour l'enfant.
Merci beaucoup, Claire, pour votre témoignage très intéressant ce matin dans Grand Main vous face. Alors, Édouard Gentaz, j'aimerais qu'on revienne avec vous sur les liens entre émotions et fonctions cognitives. Dans votre livre, vous expliquez clairement que les émotions et les fonctions cognitives agissent de pair, contrairement à une idée longtemps répandue.
Oui, du coup, ça fait des siècles qu'on a pensé que la cognition et les émotions, c'était deux secteurs totalement séparés. Au travail, on disait toujours « laisse tes émotions à l'entrée de ton bureau ». À l'école, on disait « c'est pas important, ici on est là pour apprendre ». Les émotions, c'est l'espace familial. Dans le domaine de la santé, quand on était médecin, on apprenait à surtout pas rentrer en émotion, avec pas se laisser envahir par la douleur du patient. Enfin, la culture était vraiment, il y a les émotions d'un côté, le système cognitif, il y avait d'ailleurs des grands penseurs, Piaget, tous les grands qui étudiaient le développement cognitif. De l'autre côté, à l'université, il y avait aussi les gens qui étudiaient le développement affectif, où il y avait, et c'était deux mondes séparés. Et puis depuis 20-30 ans, il y a vraiment partout, dans tous les domaines, on s'aperçoit qu'il y a une connexion extrêmement forte entre les deux, qui est validée par tout un tas de recherches comportementales en psychologie, qui montrent que les gens, globalement, quand ils sont très bons en compétences émotionnelles, sont aussi très bons en compétences cognitives et scolaires.
Et Édouard Gentaz, pourquoi le développement des compétences émotionnelles produit des effets très puissants sur les capacités d'apprentissage ?
Alors, en plus de tous ces exercices cognitifs, il y a tout un tas de mécanismes qui disent, par exemple, quand vous êtes en train d'apprendre à l'école ou dans une situation de formation, si jamais vous êtes en train de réguler des émotions dites négatives ou que vous êtes emmêlés, vous avez des soucis familiaux, vous ruminez, donc c'est des stratégies de régulation comme on appelle dysfonctionnelles, ça consomme toutes vos ressources attentionnelles et donc du coup vous pouvez pas vous focaliser sur ce que vous devez apprendre. Donc des enfants qui seront capables de bien réguler les émotions, c'est des enfants qui seront capables de recevoir et de comprendre les savoirs qui sont enseignés.
Rebecca Chankland.
Tout à fait, c'est d'ailleurs la raison pour laquelle au niveau de l'éducation nationale, aujourd'hui, il a été décidé de pouvoir développer ces compétences émotionnelles notamment, et plus globalement qu'on appelle les compétences psychosociales.
On peut les rappeler ?
Oui, donc il y a des dans les compétences psychosociales, donc c'est des compétences qui vont nous aider à nous adapter aux situations du quotidien. Il y a des compétences d'ordre cognitif qui comprennent notamment la connaissance de soi, de ses ressources, de ses limites, la capacité à résoudre des problèmes, des compétences émotionnelles dont on vient de parler, et des compétences sociales comme l'empathie, la capacité à coopérer. Et donc, aujourd'hui, la DGESCO, donc au niveau de l'éducation nationale, a proposé un kit qu'ils ont appelé donc un kit empathie et compétences psychosociales pour pouvoir développer ces compétences dès la maternelle et tout au long de la scolarité, y compris au lycée. Il y aura également des propositions qui seront faites pour pouvoir donner des outils également pour les adolescents.
On peut rappeler ce que sont les compétences émotionnelles rapidement pour ceux qui nous prennent en cours?
Oui, donc les compétences émotionnelles, c'est à la fois la capacité à identifier, nommer ses émotions, comprendre les besoins qui sont derrière, les exprimer d'une manière adaptée par rapport au cadre dans lequel on se trouve, réguler l'intensité et pouvoir s'appuyer sur ses émotions pour prendre des décisions plus adaptées.
Et ça s'apprend donc aussi en famille, Héloïse Junier.
Oui, tout à fait, ça s'apprend en famille, via l'éducation.
À l'école, bien sûr, bah, mais en famille aussi.
Dans tout l'environnement humain de l'enfant, en fait, effectivement. Et les parents sont vraiment les premiers éducateurs.
Allez, il est précisément 11h moins le quart, l'heure de retrouver la chronique Ma vie de parent de Gwenaëlle Boulay.
France Inter.
C'est que sur les reproches, vous. Hein. On est là pour tout, pour tout, pour tout.
Grand bien vous fasse.
Si on peut aider des parents à mieux élever leurs enfants, après tout, pourquoi pas?
Salut!
Alors comme ça, Gwenaëlle Boulay, quand on vous parle d'émotions, ça vous donne envie de pleurer?
Ouais, j'avoue. Ma gorge se serre et mes très sensibles glandes lacrymales sont à deux doigts de créer des petites larmes. Et ce, pour deux raisons. La première, qui est totalement contextuelle et que j'ai tenté d'écrire cette chronique samedi soir, recluse dans ma chambre alors que notre fille faisait sa fête d'anniversaire de 15 ans dans le salon. Alors, outre le fait qu'à chaque morceau, j'avais très envie d'aller moi aussi sur la piste de danse pour sauter jusqu'au plafond, mais que bien sûr, cette option m'était strictement interdite, avouez que ça frise la torture, ces saligots de jeunes ne m'ont même pas laissé de fromage à raclette. Oh là là. Double frustration. Mais bon, si je reviens sur le fond de la question, les émotions de nos enfants, j'avoue que depuis quelques années, face aux plus ou moins 850 livres écrits sur le sujet, je me sens une fois de plus un peu dans la catégorie des parents nuls. Comme si ma vie de maman s'était entièrement déroulée à l'envers, que j'étais devenue parent en pure novice, en loose day, sans avoir passé le permis avant.
Pourquoi ? Vous trouvez qu'il est beaucoup plus difficile d'être parent en 2024 qu'avant ?
Bah, en regardant la semaine dernière un documentaire sur les femmes d'agriculteurs au cours du siècle, je relativise quand même rapidement. Non mais, c'est juste qu'en général, on devient ingénieur après avoir fait des études d'ingénieur, médecin après 10 ans d'études de médecine et boulanger en ayant appris la boulangerie. Alors que parents, bon, on le devient parce qu'on s'aime très fort, ou alors qu'on a un peu trop bu, enfin ou les deux, enfin vous m'avez compris. En tout cas, rarement après un master en psychologie de l'enfant. Et quand cela vous tombe dessus, que vos nuits sont réduites à peau de chagrin, que vous tentez déjà de concilier survie physique, vie de couple, vie de famille, santé mentale et carrière professionnelle, dites-moi juste quand vous avez le temps pour lire et mettre en pratique les 300 pages d'Au cœur des émotions de l'enfant, la sécurité émotionnelle de l'enfant ou le très américain, non moins très intéressant, parler pour que les enfants écoutent, écouter pour que les enfants parlent. Juste, dis-moi quand on a le temps de faire ça. Non, parce que moi, je vous avoue que quand ils sont couchés le soir après l'enchaînement journée de boulot, programme de géo de troisième, police du lavage bucco-dentaire, j'ai envie de beaucoup de choses, mais sauf de me replonger dans une analyse de ma parentalité aussi moyenne et défaillante soit-elle.
Mais tout de même, Gwenaëlle, il existe de bons conseils à apprendre dans ces ouvrages qui peuvent nous aider dans nos relations avec nos enfants.
Mais oui, tellement. D'ailleurs, je vais repartir peut-être avec ceux d'aujourd'hui, là. Et c'est toute la question de l'investissement. Prendre du temps maintenant pour en gagner plus tard. Et c'est vrai que les quelques fois où je me suis plongée dans ce type d'ouvrage, j'y ai découvert de vraies perles pour désamorcer certains conflits, mieux comprendre tel ou tel aspect du caractère d'un de nos enfants, éprouver aussi nos propres émotions de parents, essayer de prioriser les exigences, réduire les tensions. J'ai trouvé dans des toutes petites collections, toutes simples et très courtes, du type les 50 règles d'or pour aider son enfant à surmonter ses colères, en mode coaching, lecture aux toilettes, des choses qui nous ont bien aidés dans quand notre intuition ne suffisait plus. Mais c'est vrai que plus j'avance et plus je me dis que des cours de psychologie, de connaissance de soi et d'empathie pour tous, dès la petite enfance et tout au long de la scolarité, ne serait pas trop. Cela permettrait en fait à chacun de grandir avec ce bagage sans paniquer une fois de l'âge adulte arrivé, et ça nous libérerait peut-être un peu de nos propres angoisses et violences pour en protéger ensuite nos enfants. Bien, bref, donc voilà, former les futurs adultes et parents capables d'adoucir les relations au sein de leur famille, mais aussi plus largement au sein de la société, une sorte de bac moins 12 en parentalité, quoi. Mais bon, j'ai cru entendre dans l'émission que c'était sur la bonne voie, donc voilà, je suis ravie.
Et je vais vous filer les livres de nos invités qui ont l'avantage d'être courts, bien faits, très bien documentés, accessibles. Réaction
génial,
autour de la table, Rebecca Chanclan, Héloïse Junier.
Pardon.
Réaction sur la chronique de
Gwenaëlle. Je suis pleinement d'accord. C'est vraiment le fameux décalage science-vraie vie, en fait. Je suis d'accord. Bon courage, Gwenaëlle.
Rebecca Chanclan.
Oui, je pense que c'est vraiment un point de vigilance très important à prendre en compte. C'est qu'à la fois, il y a des résultats intéressants du côté des recherches et des pratiques qui peuvent aider à mieux gérer des situations difficiles. Et en même temps, il ne s'agit pas d'augmenter la pression que les parents se mettent déjà eux-mêmes. Donc, un des objectifs aujourd'hui, c'est vraiment de pouvoir mieux soutenir soutenir finalement les parents, surtout à travers un meilleur soutien social, parce qu'en fait c'est aussi en partageant avec d'autres parents qu'on se sent moins, enfin on se sent pas nul tout seul, on sent qu'on est plusieurs,
on est nul ensemble.
Édouard Gentaz.
Oui, complètement d'accord, c'est-à-dire que même moi je proposais dans ma revue là, Anaïde, une préparation à la parentalité universelle et gratuite avant la grossesse, parce qu'on a 9 mois quand même pour, donc là on a du temps pour lire puisqu'on est entièrement dédié à, enfin du coup on travaille mais on peut quand même, on va moins être débordé qu'après, et une préparation à la parentalité qui non seulement serait sur les aspects physiologiques mais aussi sur les aspects psychologiques et qui pourrait se poursuivre même les 2 prochaines années après la naissance, où là on accompagnerait les parents à essayer de mieux comprendre leurs enfants et on peut imaginer que c'est un investissement qui serait extrêmement rentable pour toute la société.
Et Louise Junier ?
Et oui, pour compléter brièvement, mais c'est vrai qu'aussi, on n'a pas parlé des pleurs du petit, mais ça peut occasionner des maltraitances, des bébés secoués, donc effectivement, c'est important de pouvoir les sensibiliser pendant la grossesse, où les parents sont perméables en fait à l'information. Oui.
Rebecca Chankland.
Oui, juste pour rebondir sur ce que disait Édouard Gentaz, c'est ce qui avait été proposé par la commission des 1000 premiers jours au ministère, donc on espère que...
Présidé par Boris
Cyrulnik. Donc on espère qu'il y aura des suites.
Tous les épisodes de Ma vie de parent de Gonel Boulet sont à podcaster sur l'appli Radio France dans un instant. Comment aider les enfants à surmonter leur peur de parler devant leurs camarades en classe, et comment aider les enfants à exprimer leur gratitude? Ce sera juste après avoir écouté Luigi qui interprète Reste en vie.
J'aimerais tellement que tu vois ce que je vois. J'aimerais tellement te prêter mes yeux que tu puisses voir le feu qui sommeille en toi. Le paradis, l'enfer sont le même endroit. J'aimerais tellement que tu vois ce que je vois. J'aimerais tellement te prêter mes yeux que tu puisses voir le feu qui sommeille en toi. Le paradis, l'enfer sont le même endroit. CDI de 8h à 8h, semaine de 48 heures. Je n'étais qu'un gosse, un rêveur, ce qu'ils appellent un rappeur de Twitter. Je traînais dans les DM de combien de ces belles sirènes que j'invitais à mes clips moi-même. N'oublie jamais ta mission, pour un peu d'amour, un peu d'attention. Surtout si tu ne vis pas encore du son de ta passion. Donne-toi les moyens de tes ambitions. Prends soin de toi, trouve un job, arrondis tes fins de mois. Assume-toi, c'est le premier pas. Assure-toi bien de l'amour des gosses, du respect des anciens. Jeunes souvent mangent bien. Garde la tête haute même quand t'es en chien. Et quand tu montes, n'oublie personne en chemin. Je sais que d'avoir ta mère contre toi, c'est plus dur que d'avoir le monde contre toi. Mais j'aimerais tellement que tu vois ce que je vois. J'aimerais tellement te prêter mes yeux que tu puisses voir le feu qui sommeille en toi. Le paradis, l'enfer sont le même endroit. J'aimerais que tu restes en vie.
Luigi, reste en vie.
C'est moi, Lille ! Non, c'est ma place, là !
Grand bien vous fasse.
J'en ai marre ! C'est ça, j'ai pas à l'école !
Ali Rebéi.
D'accord, et j'écris quoi, moi, sur le mot d'excuse ? Absent parce que pas assis au milieu ?
Sur France Inter.
Et ce matin, comment aider les enfants à mieux comprendre et à mieux exprimer leurs émotions? C'est notre question ce matin. Tiens, aidons Laetitia qui nous écrit ceci. Je suis enseignante et j'ai depuis 2 ans une élève qui systématiquement craque et fond en larmes à chaque fois qu'elle doit passer à l'oral devant ses camarades. Je la fais passer seule avec moi pour l'épargner, mais j'aimerais qu'elle arrive à surmonter sa peur. Ce qui est très étrange, c'est qu'elle fait du théâtre et qu'elle y est très à l'aise. Nous sommes plusieurs collègues à être un peu démunis. Héloïse Junier, comment aider cette Et je crois que ça parle à beaucoup de parents, hein, cette peur de s'exprimer en public, en classe notamment.
Alors elle est très fréquente, cette peur. Après, elle est plus ou moins intense selon les élèves, leur tempérament, leur personnalité, leur histoire de vie. Déjà, c'est important, mais comme l'enseignante l'a dit dans le témoignage, de respecter la peur, de ne pas forcer l'enfant. Sinon, cette peur risque d'être décuplée. Et en fait, ce qui peut être intéressant, c'est d'accroître la zone de confort de l'enfant de manière progressive. C'est-à-dire que ça peut être, au début, elle peut être parler de sa place à elle. Après, quand elle sera prête, le plus dur, c'est de parler devant les enfants, devant tous les enfants qui vous regardent dans un public. Donc, il faudrait qu'elle trouve des stratégies, en fait, déjà pour comprendre d'où vient cette peur, pour essayer d'accompagner l'élève. En tout cas, aucun forcing, bien évidemment, et aucune humiliation associée.
Rebecca Shankland, comment aider tous ces élèves qui ont peur de s'exprimer en public?
Alors, en fait, c'est une peur qui arrive très tôt. C'est la peur de l'évaluation et qui est très présente dans notre système, notamment parce que les évaluations sont très individualisées. Et donc, ce sur quoi on travaille aujourd'hui avec l'éducation nationale, c'est travailler beaucoup plus par modalité coopérative où on est à plusieurs. On est à plusieurs à présenter, on est à plusieurs à travailler. Et donc, il y a beaucoup
plus
moins...
simple de faire un exposé à plusieurs tout que à tout fait. Seul.
Donc, c'est tout le système aussi qui est à repenser en termes d'évaluation où il y a eu beaucoup de pression qui a été mise sur cette dimension-là, et notamment avec une stigmatisation de l'erreur. Donc aujourd'hui, on travaille beaucoup aussi sur la déstigmatisation. En fait, se tromper fait partie de l'apprentissage, est nécessaire aux apprentissages. Donc c'est toute une représentation qui est à modifier pour diminuer aussi ces angoisses.
Tiens, j'aimerais qu'on s'arrête sur une émotion qu'on n'exprime peut-être pas suffisamment au quotidien en famille, c'est la gratitude. Pourquoi est-il si difficile de l'exprimer, même à l'âge adulte? Et quels sont les nombreux bienfaits de la gratitude? Rebecca Shankland, dans la BD d'Héloïse Junier, vous expliquez cette question de la gratitude. C'est une belle mise en abîme, là.
Oui, oui.
Alors, effectivement, la gratitude, pourquoi on ne l'exprime pas? Alors d'abord, parce que on est plus attentif à nos émotions difficiles, et donc elles vont prendre le pas sur d'autres aspects du quotidien. On parle aussi du biais de négativité. C'est une tendance naturelle à orienter l'attention plutôt vers ce qui ne va pas, le verre à moitié vide. Et donc, on a moins de chances d'éprouver de la gratitude dans un premier temps.
Et quels sont les bienfaits, les nombreux bienfaits de la gratitude?
Alors, tout à fait, si on peut s'entraîner, donc il existe des exercices pour s'entraîner à observer dans le quotidien les choses plus satisfaisantes qui se produisent et aussi ce qui se produit dans les relations, donc la qualité des relations. Et ça peut du coup faire émerger une émotion de gratitude qui va avoir des effets bénéfiques, non seulement pour la personne qui éprouve la gratitude, parce que ça va notamment diminuer les symptômes de stress, d'anxiété, ça va augmenter la satisfaction par rapport à la vie, mais ça a aussi des effets bénéfiques sur les personnes de l'entourage à qui on exprime la gratitude et qui vont du coup se sentir aussi plus utiles socialement.
Un exemple concret, Héloïse Junier, d'expression de la gratitude au sein de la famille, un exemple?
Par exemple, je sais pas, la maman qui a un appel téléphonique à passer important pour elle et du coup elle confie à la grande sœur la gestion du petit frère, et en fait quand elle a fini son appel, elle va retourner voir sa fille disant bah écoute, merci de m'avoir laissé le temps en fait de passer cet appel téléphonique important pour moi. Un exemple tout bête. On pense pas à le faire, comme dit Rebecca, et c'est vrai que c'est essentiel.
Gwenaëlle Boulay.
Il y a un rituel qui est très fort en famille. Alors c'est issu de la tradition chrétienne, mais on peut tout à fait le laïciser. C'est le soir, par exemple, tous les soirs, d'avoir un tout petit moment où on se dit merci pour quelque chose, pardon pour quelque chose, s'il te plaît, pour quelque chose. Alors je le dis de manière un peu chrétienne, mais ça peut vraiment être laïcisé. Mais l'idée, c'est de se dire merci, c'est-à-dire qu'est-ce que je relis dans ma journée qui a été quelque chose de beau et de positif pour moi. Et ça peut être à l'école, dans la famille. Quel a été quelque chose où j'ai senti que ça tendait, mais ça peut être de ma faute, ça peut être d'autres choses, quelque chose que j'ai mal vécu. Et puis, qu'est-ce que j'espère pour le lendemain? Voilà. Et c'est quelque chose qui est très fort et qu'ils aiment jusqu'à adolescent. Et c'est une belle occasion de se dire des choses.
Merci à toutes et à tous. Je recommande vraiment vos livres respectifs. Héloïse Junier, votre BD Les émotions de l'enfant, publié aux Arènes. Édouard Gentaz, merci d'ailleurs à la RTS à Genève pour la liaison ce matin. Comment les émotions viennent aux enfants, c'est chez Nathan. Merci Rebecca Shankland. Les émotions et moi de Sophie Bordet. Des Pétillons, auxquels vous avez participé et publié aux éditions IG. Et alors demain, c'est totalement différent, on va s'intéresser au plaisir d'aller au bistrot.